Bonjour Virginie Duby-Muller.
Bonjour.
À qui, selon vous, va profiter le retrait de Benjamin Griveaux de la campagne des municipales à Paris ?
Écoutez, pour l'instant, il est assez tôt pour le dire. Ce que je note, c'est qu'il y avait un sondage qui devait à nouveau sortir, qui montrait que Benjamin Griveaux était relégué en quatrième position. Donc on voit que sa campagne avait du mal à prendre. Il y a la division avec Cédric Villani, il y avait sa propre personnalité. Aujourd'hui, Agnès Buzyn reprend sa campagne au pied levé à 4 semaines du premier tour. Elle est déjà revenue sur un certain nombre de propositions qui semblaient être phares, qui avaient été portées donc par Benjamin Griveaux. Donc déjà, il y a un reniement de ce qui avait été proposé par son prédécesseur. Donc on voit quand même des choses assez troubles. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a une candidate, Rachida Dati, qui est très implantée, très motivée, qui a un programme très cohérent pour les Parisiens en matière de qualité de vie. On a des problèmes de propreté, de sécurité, de délinquance à Paris. On a aussi la question du logement social, avec aussi des classes moyennes qui ne peuvent plus se loger à Paris aujourd'hui. Et Rachida Dati a un programme cohérent. Donc moi, je crois évidemment que notre candidate est la plus à même pour succéder à Anne Hidalgo.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que Agnès Buzyn est une candidate plus redoutable que ne l'était Benjamin Griveaux ?
Alors peut-être qu'elle a un côté plus rassembleur, parce que effectivement Benjamin Griveaux avait ce côté assez prétentieux, assez arrogant, et y compris dans ses propres équipes, il avait du mal à convaincre. Agnès Buzyn, moi je crois que c'est d'abord une candidate par défaut. On voit bien qu'en 48 heures, elle a complètement changé d'avis et que vraisemblablement, elle a eu des demandes pressantes, notamment de l'Élysée.
Alors, ce qu'elle disait avant, c'était qu'elle ne pouvait pas être candidate tout en restant au ministère de la Santé.
Oui, écoutez, c'est une pirouette, mais elle n'a jamais été candidate à une quelconque élection. Et là, on lui demande de commencer quand même par la mairie de Paris, ce qui est quand même un pari assez ambitieux.
C'est courageux de sa part, non ?
Il y a une forme de courage ou peut-être c'est assez kamikaze aussi de sa part de reprendre effectivement la campagne.
Présomptueux, vous voulez dire ?
Pas présomptueux, mais c'est un contexte quand même qui est assez difficile. C'est une campagne en plus, puisque ce sont les conseillers d'arrondissement qui votent in fine pour le maire de Paris, et dans un contexte que l'on connaît, donc c'est pas évident. Et puis elle porte aussi malgré tout le bilan du gouvernement. Elle renonce aussi à un ministère qui est très exposé en ce moment, avec le coronavirus, la réforme des retraites, le plan dépendance. Donc elle avait un certain nombre de dossiers à porter, et finalement, elle a mis devant ses intérêts partisans plutôt que l'intérêt du pays, ce qui est quand même assez regrettable.
Chez les Républicains, la campagne des municipales à Paris n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Il y a beaucoup de désunion.
Écoutez, Rachida Dati a réussi à rassembler autour d'elle.
Pas tout le monde, vous le savez. Il y a 3 candidats de
oui,
sensibilité
mais elle est restée
LR
fidèle
dans le 16e. Et il y a Philippe Goujon qui s'est maintenu contre Rachida Dati dans le 15e. Enfin, c'est loin d'être
Oui, mais Rachida Dati est restée droit dans ses bottes. Au moins, elle n'oublie pas qu'elle a une famille politique. Et elle a malgré tout réussi à rassembler dans les autres arrondissements. Il y a beaucoup de candidats qui se sont aussi orientés vers elle. Elle a, je trouve, une bonne capacité de leadership. Et elle fait une vraie campagne de terrain, ce qui est appréciable. Et on voit d'ailleurs les progrès dans les sondages, puisqu'elle était au départ à 11%. Là, elle est un peu plus de 20% en quelques mois. Donc moi, je lui souhaite de réussir, évidemment.
Est-ce que la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'auteur donc de cette fameuse... de la diffusion des vidéos de Benjamin Griveaux, Piotr Pavlansky, est-ce que cette remise en liberté vous a étonné ?
Mais écoutez, il y a une enquête qui est en cours, il y a eu des auditions qui ont eu lieu.
Mais lui-même a dit qu'il était convaincu qu'il serait placé en détention.
On parle quand même de diffusion de vidéos, ouais. Il n'a pas non plus commis un crime. Donc voilà, moi je crois qu'il faut pas non plus qu'on ait une justice qui exerce, je dirais, des réponses qui soient disproportionnées. Il faut laisser l'enquête se faire. Il a avoué, il reconnaît, avoir diffusé cette vidéo.
Il
essaye d'expliquer évidemment les raisons qui ont conduit à cela. Moi je n'ai pas de, je dirais, je ne me mets pas à la place de la justice et je n'ai pas à commenter cela.
Certains élus de la majorité n'ont pas hésité à dire qu'il faudrait le remettre dans un avion pour le renvoyer en Russie. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
Moi, je crois qu'il faut pas aller sur ce terrain-là. Effectivement, il est venu en France, il a un statut d'asile politique.
Oui.
Là, quand on voit son comportement à l'endroit de notre pays, on peut effectivement se poser des questions. Mais de là à lui demander de retourner dans son pays, en l'occurrence la Russie, je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui.
Les députés ont commencé hier à examiner les milliers d'amendements qui ont été déposés par l'opposition au projet de réforme des retraites. Il y en a plus de 40 000. Est-ce que le gouvernement pourra éviter de recourir au 49-3 ?
Ça paraît effectivement compliqué pour le gouvernement aujourd'hui de ne pas utiliser le 49-3. Déjà, le gouvernement avait la possibilité d'utiliser le temps législatif programmé, ce qui permettait de limiter dans le temps les débats. Et on a encore vu une nouvelle fois son amateurisme, puisqu'il n'était pas dans les délais pour le faire. Du coup, il laisse place au débat, mais ils se rendent compte que les choses vont durer, notamment à cause des mouvements d'extrême gauche qui ont fait de l'obstruction systématique et pas forcément, intelligente. On est là évidemment pour débattre d'un certain nombre de points importants sur ce texte. En revanche, lorsque l'on voit qu'ils ont fait des amendements virgule, c'est-à-dire juste pour obstruer les débats et faire durer, c'est un petit peu dommage.
Donc, les oppositions plus ou moins pratiquées ce genre
certes,
de choses.
Mais voyez, les Républicains, on a fait à peu près 2000 amendements, ce qui fait 30 amendements par député. Oui. Donc ça proportion raisonnable. Oui. Mais effectivement, je crois que le gouvernement n'aura pas d'autre alternative que d'avoir recours au 49-3. D'ailleurs, le nouveau ministre Olivier Ferrand y a fait allusion. Donc vraisemblablement, ce sera l'arme ultime qui sera utilisée lorsqu'au bout de 2, 3, 4 semaines, ils vont se rendre compte qu'il faudra en terminer. Et pour montrer aussi à l'opinion publique qu'il y aura eu quand même du débat sur ce texte à l'Assemblée nationale, qui jusqu'à présent avait quand même été piétiné puisqu'on n'avait pas du tout été, intégré au moment des discussions, au moment des négociations sur ce texte important.
Emmanuel Macron s'est exprimé hier à Mulhouse sur ce qu'il appelle désormais le séparatisme islamique. Le président de la République a défini 4 lignes de force. Reprendre le contrôle et lutter contre les influences étrangères. Une meilleure organisation du culte musulman. Lutter contre toutes les manifestations du séparatisme. Et enfin, ramener partout, a-t-il dit, la République, là où elle a démissionné, là où elle n'a pas été au rendez-vous. Est-ce que les objectifs, pour commencer, sont les bons ?
Je crois qu'il était important qu'il s'exprime enfin sur cette question du communautarisme ou du séparatisme.
C'est une première étape, dit l'Élysée d'ailleurs.
L'Élysée dit que c'est une première étape avant les municipales et qu'il y aura d'autres mesures qui seront annoncées. Ce que je constate sur la méthode, c'est qu'à chaque fois, on a droit à un grand déplacement, de grands discours. Ce qui est important, ce sont les actes. Pour l'instant, sur ces sujets, on a vu un gouvernement qui était plutôt timoré, qui n'osait pas nommer les choses. Là, on voit bien que sur la sémantique, on parle pas de communautarisme, mais de séparatisme. Après, il faudra, je pense, aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, par exemple, sur le retour des djihadismes. On a un certain nombre de sujets qui sont complètement éludés, qui sont traités avec naïveté.
Et lesquels, par exemple ?
Par exemple, d'après la DGSI, on a quand même 150 quartiers qui sont aujourd'hui aux mains des islamistes. Et ça, on ne donne pas de solution concrète pour faire revenir la République dans ces territoires, ce qui pose quand même un certain nombre de sujets. On a aussi une application de la loi sur la burqa qui n'est pas réelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin sur les contraventions pour ces femmes qui sont contrevenantes et qui portent la burqa malgré une loi qui l'interdit. Donc on a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut, je crois, avoir des mesures plus fortes pour faire reculer l'islam radical dans notre pays, qui est une véritable source d'inquiétude chez nos compatriotes.
Il y a quand même quelques mesures qui sont annoncées. La fin des imams détachés, comme on dit, qui sont envoyés par d'autres pays, en augmentant parallèlement le nombre d'imams formés en France. Ceux qui sont déjà en France, a dit le président de la République, termineront leur période de présence. Ça, c'est un sujet dont il est question depuis très longtemps, que les imams soient français et formés en France.
Oui, cette question de l'islam de France, elle est effectivement importante. Après, il faudra évidemment s'assurer de la formation de ces imams pour qu'on n'ait pas, comme on a pu l'avoir parfois, une forme de prosélytisme dans les prêches qui sont faites, qu'on ait aussi le fait qu'ils s'expriment en français et que ce soit surtout des prêches qui soient compatibles avec les valeurs de la République. Donc il faudra bien sûr s'assurer de cette formation de ces imams. C'est vraiment un point extrêmement important.
Merci Virginie Duby-Muller.
Merci.
Bonne journée.